découvrez l'incroyable histoire de l'empereur jaune qui voulait devenir rouge. Il était une fois dans une contrée très très lointaine un empereur que l'on nommait Ho Chi Minh. Ho Chi Minh était un petit homme doux et toujours de bonne humeur. Même quand il ne riait pas, ses yeux semblaient sourire. Il aimait très fort son royaume et ses sujets auxquels il était entièrement dévoué. Même s'il savait parfois s'accorder du temps pour s'adonner à ses deux passions, le kart et le badminton. Les autres peuples de la Terre enviaient et admiraient son royaume tant il était beau et différent du reste du monde. La France, emportée par l'arrogance naïve de sa jeunesse, n'avait pas hésité à venir s'installer dans le royaume sans vraiment y avoir été invitée. Mais la sagesse de l'empereur Ho Chi Minh était grande et il avait accueilli les Français à bras ouverts, s'efforçant d'ignorer leur petite maladresse de savoir-vivre. Les Français aimaient faire remarquer à leur ami Ho Chi Minh sa couleur si différente de la leur. Ils aimaient à l'appeler, non sans une pointe de taquinerie, le jaune. Cela faisait beaucoup rire Ho Chi Minh qui aimait cette couleur et la portait fièrement. Après tout, c'était celle du soleil, des œillets et de l'hépatite C. Mais un matin, le sommeil du palais et le silence de l'aube furent brisés par les hurlements de l'empereur. Le palais trembla comme frappé par des éclairs. L'empereur jaune, totalement nu, sautillait en se griffant le visage. « Je ne veux plus être jaune, je veux être rouge, rouge, rouge !» s'égosillait-il. Cette décision de l'empereur inquiétait beaucoup ses amis français. Non seulement ils aimaient sa teinte jaune, mais ils redoutaient terriblement la couleur rouge. Ils en avaient très peur. Le rouge était la couleur du sang et la tenue de scène d'Anne Roumanoff. Tout cela ne pouvait rien présager de bon. Mais impossible de faire changer l'empereur d'avis. « C'est décidé. À partir de maintenant, je suis rouge !»
Comme un soleil couchant de Méditerranée.
C'était donc trop tard. La couleur rouge avait commencé à se mélanger à la couleur jaune de l'empereur qui, avec tous ces mélanges, arborait maintenant une couleur orange vif, qui est en fait la couleur qu'on obtient quand on mélange du jaune et du rouge. Très vite, le gentil Ho Chi Minh perdit toute sa bienveillance envers ses amis français. Il leur rappela avec fermeté qu'ils étaient chez lui et qu'à ce titre, ils n'avaient pas de leçons à recevoir. D'ailleurs, toutes les personnes ne voulant pas porter du rouge comme lui devraient partir sur le champ.
Enfin, j'ai passé l'âge du marteau piqueur, hein ?
Les Français eurent beaucoup de chagrin en entendant ces mots de leur ami l'empereur. Ils décidèrent que dans ce cas, il fallait le tuer. Mais Ho Chi Minh, qui était caché dans la terrible jungle maléfique, celle dont personne ne revient jamais à part Mike Horn et Mundir, lança alors son armée sur le magnifique petit village de Kaobang, où l'armée française, qui n'était pas encore en guerre, pouvait profiter de l'eau cristalline, des fruits sucrés et des gentilles dames qui acceptaient d'être sodomisées pour quelques dollars seulement. L'armée d'Ho Chi Minh envahit la caserne de Kaobang. Les Viet Minh se lancèrent sur les soldats français et les anéantirent en quelques heures. La France, alors, tapa du poing sur la table. « Vous êtes vraiment méchants, méchants, méchants !» s'exclama-t-elle. Elle ne voulait pas abandonner ce royaume, ses habitants et ses ressources qu'elle aimait tant. « Nous allons envoyer la colonne de secours Le Page, sauver les légionnaires de Kaobang et reprendre la caserne !» s'écria l'état-major. Et c'est ainsi que les gentils Français de la colonne de secours Le Page commencèrent à préparer leur mission. Protéger une contrée et un peuple qui ne leur avait rien demandé. Ils étaient un exemple de discipline, de force et d'efficacité et suscitaient l'admiration de tous. À l'image de notre France black, blanc, beurre, la colonne était constituée d'hommes de pays différents, de cultures différentes, de religions différentes. Tous ces hommes étaient amis et se soutenaient dans la difficulté pour servir la France, qui juge souvent les gens, mais jamais ceux qui sont prêts à mourir pour elle ou à gagner une Coupe du Monde.
C'est vrai que ça n'a pas été l'un des meilleurs matchs en équipe de France.
Dans cette armée, il y avait donc... Les petits Français, toujours prêts à raconter la fameuse histoire de la pute, du juif et du chameau. De solides et beaux Allemands qui racontaient seulement l'histoire du juif. Les courageux Arabes qui se battaient bien mais qui s'occupaient surtout des gros travaux car ils aimaient beaucoup beaucoup ça et ils le faisaient mieux que nous. Et les gentils noirs, toujours de bonne humeur, qui venaient de l'Afrique pour aider la France qui avait été si gentille avec eux, voire chapitre sur la colonisation française. Et hop, et hop, et hop, l'armée française se prépare dans une insouciance presque joyeuse. Les uns astiquent les canons, les autres brossent les vestes. Et oui, mon chargeur, et qui a pris ma boussole? La joie et l'excitation sont presque palpables dans les rangs du bataillon français qui arrive d'un pas décidé dans le petit village de Kaobang. Kaobang était situé aux portes du terrifiant royaume de Chine. Il fallait donc absolument que les soldats récupèrent la ville et la caserne que les Viet Minh leur avaient prise. En effet, Le royaume de Chine était très grand et très inquiétant. Il faisait vraiment peur à la France, car on pouvait s'y perdre facilement. Son chef s'appelait Mao. Mais en vérité, personne de par le monde n'osait prononcer son nom tant il était redouté. Mao était lui aussi un empereur jaune qui depuis fort longtemps avait choisi de devenir rouge et obèse. Tout le monde craignait la fureur de son armée. On disait que les soldats de Mao le Gras étaient plus nombreux que les étoiles dans le ciel un soir où c'est suffisamment dégagé pour qu'on voit bien les étoiles dans le ciel. On disait aussi qu'il était très féroce et qu'il mangeait des chiens vivants en commençant par les couilles. Personne n'osait avouer la crainte qui grandissait secrètement dans l'esprit des Français et que tout le monde criait sur les toits à demi-mot et à qui voulait l'entendre. Cette crainte que personne n'osait avouer qui grandissait secrètement dans l'esprit des Français et que tout le monde criait sur les toits à demi-mot à qui voulait l'entendre était la suivante. Et si Ho Chi Minh devenait l'ami du Chinois rouge en surpoids ? Et ils avaient raison d'avoir peur, car très vite, Mao la Grassouille devint très ami avec le Viet encore orange, mais plus pour longtemps. « J'ai été jaune autrefois, mais maintenant c'est fini. Je peux t'aider à devenir rouge si tu veux. J'ai plein de fusils et de maîtres pour apprendre à tes soldats orange à devenir redoutables. » dit Mao la Bouboula Ho Chi Minh. Les deux empereurs se serrèrent la main. Celle de Mao était moite et grasse à cause d'un plat en sauce récemment consommé. Le gras chinois rouge transforma d'un coup de baguette magique l'armée d'Ho Chi Minh. Elle, qui ressemblait jusqu'alors à une pauvre bande de gitans de Dunkerque, devint en un éclair un véritable bataillon d'élite, possédant une puissance de feu à faire pâlir quelqu'un qui d'habitude ne pâlirait pas facilement.
Et ma matière, elle a besoin d'une caravane. Et c'est moi que je m'occupe de ma matière.
L'un des gentils soldats français qui avait tout entendu à la radio courut alors vers son supérieur pour lui confier sa peur et s'écria « Capitaine, capitaine, Cao Bang, c'est juste en face du royaume de Chine. Si on se retrouve face à 1 milliard de Chinois, il faut qu'on foute le camp !» Le capitaine, toujours à l'écoute de ses hommes, resta un instant silencieux puis répondit avec sagesse « Hé, ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule !» Les Français très obéissants allèrent donc mourir au combat en silence. L'immense armée orange approchait. Les bruits des pas étaient si nombreux et si puissants que la terre trembla, si bien que les Français crurent d'abord à une immense armée en marche. En fait, ils ne pouvaient pas croire à autre chose parce qu'en fait, ils les voyaient, ils les avaient en visuel, en fait. Ils avaient associé le son. Voilà. Les Viet Minh s'élancèrent sur les soldats français et les anéantirent en quelques heures. Aux premières lueurs du jour, la plupart de nos gentils Français faisaient grise mine. La colonne de secours Lepage était devenue colonnette. Le moral n'était donc pas au beau fixe parmi les soldats de notre troupe un peu déconfite. Souvent, c'est parce qu'ils étaient morts. Ça met toujours un petit coup au moral d'être mort. Mais même ceux qui avaient la chance d'être encore en vie affichaient un air quelque peu bougon. Ils ramassaient les morceaux de leurs camarades, mais sans leur bonne humeur habituelle. Et alors que plus rien ne semblait pouvoir raviver le barbecue de l'espoir, une rumeur inespérée se répandit soudain dans la colonnette Lepage, réchauffant les cœurs et soulageant les âmes, comme une rasade de lait frais au réveil après une nuit brûlante, comme la première gorgée d'un vin rouge corsé qui réconforte et enivre. La colonne Charton !
J'ai glissé,
la colonne de secours Charton arrive pour nous sauver ! Youpi ! S'écrièrent-ils. Youpi ! Personne n'osait y croire. La valeureuse colonne de secours Charton, en ce moment même, marchait vers eux. Youpi ! La colonne Charton portait le nom de son chef, un brave guerrier français, solide et sûr de lui, que tout le monde admirait beaucoup. Les amis soldats de la puissante colonne de secours Charton se mirent donc en route d'un pas lourd et vif pour aller secourir la colonne de secours Lepage. Chaque enjambé semblait les rendre plus forts, plus ardents, plus déterminés, à l'instar d'une armée grecque menée par Achille lui-même, tant elle inspirait le respect et la peur. C'est alors que les Viet Minh foncèrent sur eux et les anéantirent en 2 heures. Piou ! Envolés les soldats de la colonne Charton. Mais où étaient-ils donc passés ? Eh bien, nos chers amis, ou ceux qui en restaient, avaient formé une colonnette de secours Charton qui faisait beaucoup de peine à regarder et qui surtout n'était plus du tout en état de secourir qui que ce soit d'autre. Ou alors une autre colonnette de secours encore plus petite. Mais à ce niveau, c'est plus du sauvetage, c'est juste deux potes qui en soutiennent un troisième. Alors, contre toute attente, car tout semblait perdu, le miracle que même les anges n'attendaient plus arriva. la colonnette Charton parvint enfin à rejoindre la colonnette Lepage dans un grand méli-mélo. Pif, pouf, il n'était plus possible de savoir qui secourait qui. Les prêtres bénissaient vivants, morts, blessés, agonisants. Les arabes chantaient des prières mortuaires. Bref, tout cela n'était pas rassurant. Des deux côtés, les hommes n'y croyaient plus. Cette mission qui avait coûté la vie à tant d'hommes et qui semblait maudite avait finalement été menée à bien. Malgré l'épuisement moral et physique, ils parvenaient à leur but. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Hurlèrent les mitrailleuses Viet Minh. Les deux colonnettes enfin réunies décidèrent immédiatement de se séparer. Leur nouvel objectif ? Fuir le plus rapidement possible pour se réfugier au village de Takke pour rejoindre les autres militaires français, eux-mêmes en train de fuir le plus rapidement possible le village de Takke dans le but de fuir le plus rapidement possible le pays. Les hommes des colonnettes Charton et Lepage, que nous pouvons désormais appeler la colonnette Charton-Lepage, se séparèrent donc par petits groupes de 1 pour s'enfoncer dans la jungle maléfique où les grenades tombent des arbres comme les pommes en Normandie. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu dans le grand mystère de la vie. Et les colonels Charton et Lepage furent faits prisonniers. Les quelques hommes encore libres ne levèrent pas les bras et décidèrent de tout miser sur la vitesse. S'ils ne pouvaient combattre les Viettes, ils pouvaient courir plus vite qu'eux. Insufflés d'une rage de vivre qui défie les lois de la fatigue humaine, les survivants courent aussi vite que possible. Ils coururent, le regard fixe, concentré, sans peur, sans attente, sans douleur. Ils évitèrent, franchirent, enjambèrent cette jungle, telle des biches insouciantes et sûres d'elles. Leurs pas étaient si légers, si rapides, qu'ils semblaient voler au-dessus du sol, comme si les dieux eux-mêmes offraient leurs paumes pour porter plus haut ces hommes qui ne demandaient qu'à vivre. Ils coururent, tels des Pégases au galop, inarrêtables et puissants. De toutes les légendes connues de ce monde, jamais des hommes n'ont couru si vite. Mais les Viet Minh coururent plus vite qu'eux et les anéantirent en 15 minutes. Les quelques derniers survivants perdus dans la jungle se retrouvèrent sans armes, sans ordre, seuls, livrés à eux-mêmes. Alors que tout espoir semblait perdu, les yeux se tournèrent vers le colonel Constant. Un homme brillant qui avait compris depuis longtemps que le seul moyen de survivre à une bataille, c'était de ne pas y aller.
Églantine, ici Mirabel. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon vieux ?
Force est de constater que sa technique fonctionnait. De loin, comme le lui avait appris le général de Gaulle, qu'il admirait énormément, il prit la décision d'envoyer 350 parachutistes secourir les militaires de Cao Bang, qui malheureusement n'étaient plus là depuis longtemps.
Aïe ! Restez groupés !
À l'étonnement général, les 350 parachutistes débutants ne parvinrent pas à vaincre les 35 000 Viet Minh qui les attendaient en bas. Un des gentils soldats français ne put s'empêcher de le faire remarquer. À mon avis, c'était une grave erreur de commandement. Tu l'as dit, Bouffi. Le colonel Constant, fidèle à ses valeurs, n'hésita pas à s'enfuir avec ses supérieurs d'une ville qui n'était même pas attaquée, uniquement par solidarité. Il n'hésitera pas non plus à mettre ses différends avec les Viettes de côté, leur abandonnant en guise de cadeau une grande quantité de matériel pour ne pas paraître mesquin et les féliciter de leur ténacité. Voilà un homme magnanime sur lequel nous devrions tous prendre exemple. Dans le vol de retour vers la France, les quelques militaires qui avaient pourtant la chance d'être encore en vie semblaient quelque peu soucieux et taciturnes. Même si les derniers jours avaient été fatigants pour nos pauvres amis, il n'y avait aucune raison de bouder ainsi. En fait, nos petits Français craignaient de ne pas être correctement accueillis en retournant chez eux, car ils avaient entendu dire qu'en France, personne ne prêtait guère attention à ce conflit lointain. Nos petits hommes en armes craignaient tout simplement l'indifférence. Heureusement, leurs craintes furent vite effacées. Au moment de chercher du travail et de se réinsérer dans la vie civile, les refus, les reproches et les insultes les confortèrent dans l'idée que personne n'oublierait jamais leur participation à cette belle aventure. Moralité : si vous voulez vous faire un petit jaune, allez plutôt au bistrot qu'en Indochine.